Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons reprendre cette semaine la marquise de Tencin, témoin du XVIIIe siècle, des frivolités de la monarchie à la République. C'est un livre que nous devons à Georges Labrousse, qui est déjà venu à ce micro il y a quelque temps. Alors ce livre est imprimé par Libri Nova. Alors on va voir un peu, on va partir un peu en Pologne. On va partir en Pologne. Alors le roi Jean III de Sobieski de Pologne s'éteignit le 17 juin 1696 à l'âge de 66 ans. Commandant en chef des armées polonaises, il avait été élu roi de Pologne à l'abdication de Jean II en 1672. Il avait épousé le 5 juillet 1665 Marie-Casimir-Louise de Lagrange d'Arkiem, nommée en Pologne Marie-Casimira et surnommée Marie-Sienka. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ce sont des diminutifs. Alors, une Française née à Nevers le 28 juin 1641, choisie dès l'âge de 5 ans comme dame de compagnie de Marie-Louise de Gonzague-Nevers, reine de Pologne, qui s'était mariée en 1658 avec un noble polonais. Elle avait eu 4 enfants, malheureusement tous morts jeunes. Alors, veuve en 1665, avait épousé Jean III la même année et était devenue reine en 1674 jusqu'à la mort du roi. Elle lui avait donné 14 enfants. C'était quand même beaucoup à l'époque. Voilà. Donc 4 seulement vivront. Mais oui, malheureusement, il y avait beaucoup de morts infantiles. Au décès de son mari, elle quitta la Pologne pour gagner la France. Elle mourut à Blois le 30 janvier 1716. Alors en 1732, Marie-Madeleine Barthe, âgée de 35 ans, petite fille du célèbre corsaire, se maria avec Marc de la Barthe. Leur fille Marie de la Barthe des Termes devint la marquise de Marsac. Alors, on va retrouver le Périgord. En 1756, en épousant François de Carbonnier, leur château dominait le visage de Tursac, son église fortifiée, dans la vallée de la Vézère. Alors, il y a une petite annotation qui nous dit que le château de Marsac est ouvert à la visite. Et puis, bon, ben, il y a évidemment quelques chapitres. Et voici un, le Périgord et en Espagne. Afin de continuer son œuvre en faveur de l'Église catholique, le duc de la Force, protestant converti lui-même, revint en Périgord en 1700 et s'installa à Bergerac avec 4 jésuites et un régiment de dragons. Dès le 7 novembre, les participants du culte clandestin et des meneurs furent arrêtés par de violentes dragonnades. Ils s'attaqua aux irréductibles de la ville et obtint ainsi de nouvelles conversions. De nombreux bergeracois évitèrent ainsi le bagne, la prison ou les galères. Il est à noter que le duc pourchassait avec ardeur des personnages pratiquant la religion de son grand-père, ami d'Henri IV. Alors l'armée était recrutée par tirage au sort, cela occasionnait parfois des disputes, des désapprobations vis-à-vis des collecteurs chargés du recrutement. Ce fut le cas à Coursac, le 27 janvier 1704, où François Chérifier, valet du curé de la paroisse, y a été désigné par tirage afin de rejoindre l'infanterie du roi. Cela provoqua une protestation énergique du prêtre, prétextant que le roi avait affirmé que les curés devaient avoir un domestique. Il fit appel à tous les paroissiens qui unanimement demandèrent que le nom de François Chérifier disparût de la liste des jeunes avant de tirer au sort. Ben oui, c'était une pratique de l'époque. Alors en 1707, depuis la révolte des Taravisés, un nouveau soulèvement de croquants, faisant suite aux révoltes du siècle précédent dans le sud-ouest de la France, les paysans avaient du mal à supporter une nouvelle charge fiscale due aux dépenses occasionnées par la guerre d'Espagne, auquel s'ajoutait la récente taxe sur les contrats de mariage, sur les baptêmes, et le 15 mars, 400 insurgés se rassemblèrent à Sérignac, une paroisse du Lot, mais bientôt ils furent 30 000 à Cahors, le maréchal de Montrevel, venu de Montauban assurant la dispersion dans une dragonnade sanglante. 100 paysans y furent tués ou blessés à Sérignac et 6 meneurs furent pendus. C'était ce qui arrivait bien souvent pour les meneurs et avec les pendaisons. Alors les deux hivers 1509 et 1510 furent particulièrement rigoureux. Donc comme 15 ans plus tôt, les châtaigniers et les noyers, les deux essences apportant le principal de la subsistance des Périgourdins, gelèrent. Non seulement ce furent 2 années sans fruits, mais la production de ces arbres était fort compromise. Pour plusieurs années à venir, on assista à des exodes dramatiques, des malheureux errés dans les campagnes, tandis que d'autres tentaient de survivre à Bordeaux ou se lançaient dans l'aventure en embarquant sur des navires pour les Antilles ou le Canada. Les fermiers généraux créés en 1681 par Colbert, chargés de collecter les revenus fiscaux, et avaient souvent rétrocédé leurs droits à des sous-fermiers et les abus, bien sûr, ne manquaient pas. Mais en Périgord, après quelques années plus fastes, le début du XVIIIe siècle fut difficile à vivre pour la population avec une mauvaise récolte à la fin du siècle précédent où subit des hivers rigoureux en 1709 et 1710 qui provoquèrent à nouveau le gel des châtaigniers. C'était l'annonce de plusieurs années de disette car la châtaigne assurait toujours la survie des humains et des animaux comme le porc. Les noyers n'avaient pas résisté non plus à l'attaque du gel et l'on ne pouvait donc pas fabriquer de l'huile. Le problème de la subsistance ne se posait non seulement pour ces 2 années, mais pour une période plus longue, car les arbres perdus ne pouvaient pas être remplacés immédiatement par un autre capable de donner des fruits. Ce fut la période des départs vers les villes comme Bordeaux et de là parfois vers les Antilles ou le Canada pour tenter de trouver une vie meilleure. Quelques-uns faire fortune dans un pays lointain, comme ce Périgordais natif de Tenon, parti vers la Bavière. Malheureusement, certains de ses compatriotes n'avaient pas la chance de s'exiler et on les retrouvait morts dans des maisons abandonnées ou des cabanes au milieu des bois. C'est quand même une période quand même assez triste. Pendant ce temps, la France continuait à dépenser des fortunes en se battant en Espagne. Le duc de Vendôme, réputé pour sa grossièreté et son homosexualité débridée, vainqueur de nombreuses batailles contre la Ligue d'Habsbourg en France et en Italie, remportant le 10 décembre 1710, pendant la guerre de succession d'Espagne, la victoire de Villa Viciosa, une cité des Asturies, contre une armée anglo-espagnole commandée par le général autrichien Starhemberg. Cette victoire assura au roi Philippe II d'Espagne et au duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, son maintien sur le trône. Mais lors de cette bataille sanglante, les franco-espagnols avaient perdu 2500 hommes et l'ennemi 12 000 soldats. On dit que le soir, le duc coucha sur un lit de drapeau pris en ennemi. Vendôme mourut 2 ans plus tard d'une indigestion à Vinaros, en Espagne, et le roi Philippe V décréta un deuil national, mais la guerre n'était pas finie. En Vinaros, ben c'est une ville que je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois, et c'est quand même une charmante petite ville. Voilà, et il y a bien sûr quelques chapitres suivants, et il y a une attaque de brigands. Alors ça, les brigands, évidemment, ça manquait pas. Alors, le 2 mars 1711, un convoi apportant l'argent de la recette des tailles de Sarlat à Bordeaux fut attaqué par un groupe de brigands à l'entrée de la forêt de Bas-de-Fol de Cadouet. Dans son rapport, l'intendant indiquait au contrôleur général que les coffres contenant les 26 000 livres récoltés pour les années 1710 et 1711, il ajoutait que l'escorte composée de 3 hommes avait été attaquée par 7 bandits. Le chef du convoi avait été tué de plusieurs coups de pistolet et d'épée, un autre avait été attaché à un arbre et le troisième avait réussi à s'enfuir. Les voleurs avaient emporté les coffres et les chevaux et avaient pris la direction de Cahors. L'intendant disait avoir averti des collègues de Toulouse, Castres et Albi, villes vers lesquelles les voleurs auraient pu se diriger. Mais leur fuite ne les conduisit pas loin, arrêtés par le receveur des tailles. Ils furent emprisonnés à Sarlat et jugés le 28 mars. Alors, ils furent accusés d'assassinat avec préméditation sur le chef d'escorte, d'attaque en bande à main armée sur un grand chemin et de vol avec effraction. La sentence fut sévère. Leur conduit dans la place publique par la présente ville pour y être rompu tout vif, les bras au-dessus et au-dessous des coudes, les cuisses, les jambes, les reins, sur un échafaud qui sera dressé à cet effet et ensuite chacun d'eux, pour d'être mis sur une roue plantée sur la dite place, afin de tourner vers le ciel et y rester tant qu'il plaira à Dieu de leur prolonger la vie. Mais je ne sais pas si la vie était bien agréable d'être prolongée comme ça. Alors les cadavres des deux d'entre eux furent ensuite exhibés à l'entrée de la forêt de bas de sol, de bas de folle. Alors lieu du crime, les autres sur les grands chemins voisins, celui de Meyral à Bigaroc, celui de Sarlat à Meyral, et celui de Meyral à Saint-Cyprien, avec interdiction toute personne d'intervenir sur ceux-ci. 1000 livres représentant l'amende infligée furent versés à la veuve du chef de convoi, mais un doute subsiste, le butin ne fut pas retrouvé dans son intégralité. Ben oui, il y a toujours une partie quand même qui disparaît, alors ça disparaît dans la nature. Alors, cette attaque ne fut pas la seule. Les mauvaises récoltes dues aux hivers rigoureux et aux étés trop secs entraînaient des difficultés de survie. Cela avait pour conséquence de vagabondage, à mendicité et partout à la formation de bandes errantes qui se transformaient en groupes de brigands. Ce fut le cas des années 1760 où la hausse des prix causée par de mauvaises récoltes avait mis sur les chemins des hordes de voleurs. On y retrouvait des valets de ferme, des déserteurs de l'armée et des journalistes sans travail. On estimait que 30% de la population était dans une grande pauvreté. Les sites les plus propices aux activités étaient les régions montagneuses et de forêt, comme les Cévennes. Plus tard, les troupes révolutionnaires, conjuguées à des hivers désastreux, entraînant la misère, provoquèrent aussi la formation de bandes de brigands. Une loi du 16 août 1790 décrétait que les officiers de police devaient se rendre fréquemment dans les auberges et des cabarets, car dans ces lieux pouvaient se cacher des vagabonds et des gens sans aveu. Il fallait organiser des patrouilles sur les routes, les foires, les abords des villes. Parfois, l'administration du district envoyait des arbres aux municipalités pour disperser les brigands. Alors, la gendarmerie fut créée en 1791 et des opérations coup de poing furent organisées par plusieurs brigades regroupées. Un petit vol pouvait entraîner une peine de 8 ans de travaux forcés. Pour un vol, le maximum encouru était de 24 ans de fer. Contrairement aux détrousseurs, les contrebandiers étaient rarement dénoncés par la population car ils s'attaquaient pas aux personnes. On les considérait comme des commerçants se dispensant de payer la taxe. À la fin du siècle, le terrible hiver 1794-1795 provoquant une crise de misère particulièrement désastreuse. Le nombre de mendiants, qui se déplaçait parfois par groupe, devint impressionnant. On en retrouvait aussi bien en ville qu'à la campagne, quand le climat était plus favorable. Le travail revenait et on rencontrait moins de vagabonds et de mendiants sur les chemins. Alors il y a une petite annotation sur la taille, qui était un impôt... À l'époque, alors la taille était un impôt royal, direct, prélevé par les vassaux du souverain. Voilà, alors je pense que je vais arrêter là cette lecture. Eh bien, on reprendra peut-être la semaine prochaine avec par exemple des choses sur sur la plaine de Bord, qui se trouve au sud-est de Dôme, avec la fabrication des fameuses meules pour écrémer le grain, bien évidemment. Bien sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bien ensoleillée, et je crois qu'elle le sera, et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.